Radio Canéo présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. C'était dédoublé, c'était comme si j'avais vécu une autre vie avec Didier. Cela me rendait encore plus précieux, car nous avions vécu ensemble quelque chose de fort. Et j'avais l'impression que c'était vrai. Mon amitié était de plus en plus forte pour lui. Je pensais constamment à lui, je rêvais de lui, je lui parlais. Tous les soirs, la cérémonie du portrait. Je passais des heures dans ma chambre, rêver que nous vivions ensemble. J'inventais des histoires impossibles où j'allais chez lui. Il habitait avec des parents indignes. Je le sortais de chez lui et nous vivions ensemble. Il jouait des pièces que moi je lui avais écrites. Je m'occupais de lui comme si c'était mon fils. Il était malade, je le soignais, etc. C'était une fièvre, un délire ces histoires. J'étais tellement enivré par cet amour que je ne me rendais même pas compte de son invraisemblance. J'étais ivre, fou, en dehors de la réalité. Dans mon portefeuille, je mettais tous les articles que je trouvais sur lui. Il avait quitté Lyon depuis quelque temps déjà, mais l'on continuait à parler de sa carrière dans les journaux et revues, que je lisais avant de m'endormir. Les jours passaient comme dans un rêve. Je ne me rendais compte de rien, je ne voyais rien, je me grisais. Vivais comme en hypnose. Un jour, je me dis, mais il ne me connaît pas. Il ne sait pas que j'ai de l'amitié pour lui. Il faut que je lui le dise. Je décidai de lui écrire. Comme je n'avais pas son adresse, j'eus l'idée d'envoyer la lettre sous double enveloppe à une revue théâtrale. J'allais dans ma chambre. Dans ma chambre, en cachette de mes parents, je ne sais plus ce que je lui ai écrit. J'étais dans la fièvre, en dehors du monde. J'ai envoyé la lettre, mais une fois envoyée, j'ai eu peur qu'on la renvoie à mes parents. Jamais eu de nouvelles de cette lettre. Les jours passaient. J'étais toujours dans ma folie amoureuse. Je menais mon imagination le plus loin possible. Je vivais dans un monde trouble où la réalité n'avait pas prise. Plus le temps passait et plus je devais voir l'autre adoré. Je m'imaginais qu'il allait me recevoir, que nous allions vivre l'histoire du livre. J'étais fou, fou, comme ceux qui tombent amoureux pour la première fois. Mais pour moi, c'était sûrement plus grave à cause de mon isolement et de mon imagination. À force de s'imaginer notre rencontre, je la voulais de toutes mes forces. Mais comment ? J'irai donc vers lui, à Paris. J'avais appris par un journal qui fréquentait le lycée H. Je savais qu'il ne fallait pas compter sur ma famille. Je devais agir seul et en leur cachette. Ils ne pouvaient pas comprendre. Personne ne pouvait comprendre. Je décidai de partir un matin, comme pour le lycée, et de prendre le train pour Paris. C'était simple. J'irais là-bas et je le voyais, et l'on ne se quitterait plus. Comme je n'avais pas d'argent, ou insuffisamment, un samedi matin que j'étais seul, j'allais dans le bureau de mon père. Je savais qu'il avait, dans un des tiroirs du bureau, dans une cassette, un peu d'argent. J'allais ouvrir les tiroirs. trouvé la cassette. Elle était fermée à clé, mais la clé était dessus. Je l'ai ouverte, pris deux gros billets et fermé à clé la cassette. Et l'a remis dans le tiroir. Et sorti du bureau. Le lendemain matin, je m'habillais de neuf. Après mon petit déjeuner, je partis. Le cartable à la main. Arrivé à la gare, je me sentais perdu. La foule, la porte demandait une place pour Paris. Lorsqu'on veut réaliser son rêve, on se cogne à la réalité. Cela fait mal. Après avoir demandé une place pour Paris, payé, chercher le train. Une fois dans le train, je ne savais déjà plus pourquoi je partais vraiment.
Tiens, j'ai trouvé ta légende. La moderne Pénélope.
Je suis resté tout le long du trajet, debout.
Et surtout pour mon rédacteur en chef.
À regarder le paysage.
Ou alors, elle tricote.
Tant triste et pluvieux.
Vraiment, rien n'est sacré pour vous. Si vous faites comme ça avec les grangiers...
Le temps m'a paru long durant le parcours.
Aujourd'hui, tu t'es pas
et puis, de temps en temps, j'étais dans mes rêves. Je me voyais vivant ma vie à Paris avec Didier, dans le luxe et tout.
Sur la voie.
Enfin, la gare de Paris. Noire et triste. Première déception. Dehors, deuxième déception. On a l'impression d'arriver dans une ville comme une autre. Ce n'est que cela, Paris. Rien que cela. Puis, où aller? Que faire? J'ai demandé à un passant qui se trouvait le lycée H. Un monsieur, très gentil, m'a dit de prendre l'omnibus N. Je ne me souviens plus. Je l'ai pris. Je suis arrivé devant le lycée H. Un lycée qui ressemblait à n'importe quel autre. Des élèves entraient, sortaient, sans arrêt. Je suis resté devant le trottoir d'en face de la sortie. J'ai attendu. Comment savoir s'il était déjà entré ou sorti? J'ai pris mon courage à deux mains et je demandais à un élève qui sortait. Didier H. Ah oui, Didier H, ce comédien. Il est en troisième, je crois. Je ne sais pas s'il est sorti. Je dois demander au proviseur. Merci. J'attendais encore, me disant qu'il faudra tout de même que je fasse quelque chose. Seul dans une autre ville, inconnue de tous, on est plus enhardi. Alors je ne sais comment, mais je l'ai fait. Je suis entré au lycée H. J'ai demandé au concierge du bureau du proviseur, s'il vous plaît.
Première porte à droite, au fond du couloir.
J'y suis allé. Mes pas résonnaient dans la cour. Une cour vide. J'ai frappé à une porte vitrée. Je suis entré. Une dame assise à un bureau m'a demandé ce que je voulais. J'aimerais parler à un élève.
Lequel ?
Là, ma gorge s'est serrée. Et j'ai compris que c'était fini, que j'aurais dû partir sans demander mon reste. Mais je ne sais pourquoi, tout en sachant que je me liais, je dis, j'aimerais venir voir Didier H. La dame dit,
c'est pourquoi?
C'est personnel. Elle se leva.
Je vais vous conduire dans une salle.
Elle allait ouvrir une porte pour me faire entrer. C'était dans un salon, me fait asseoir. Et sortit en fermant la porte. Je savais que je ne pourrais plus sortir, que j'étais entre leurs mains, que mon rêve était fini, que la réalité dans quelques minutes allait me tomber dessus. J'acceptais mon corps, mon sort, dignement. C'était fini. Plus rien ne comptait pour moi. J'avais la gorge serrée, les larmes aux yeux. La réalité avait gagné et allait se venger. S'est ouverte et refermée sur deux hommes grands et forts en costume. Je me levai comme un enfant bien sage, les jambes tremblantes, la gorge serrée. Le moment des comptes avait sonné. Je devais expliquer. Mais expliquer quoi ? Que j'avais fait un rêve, rien qu'un rêve, que mon rêve était d'aimer. Je n'avais que 16 ans. Pitié. Les deux hommes se sont approchés. L'un des deux a demandé : Vous avez demandé à voir Didier H ? Oui.
Pourquoi ?
Comme ça, j'aurais voulu lui parler. Les deux hommes se sont assis.
Vous êtes de Paris ? Quelle école ?
À quoi bon leur mentir pour si peu ? Non, de Lyon. Celui qui n'avait pas parlé dit :
Je suis le père de Didier H. Je vous prie de le laisser en paix. Que lui voulez-vous ?
Lui parler. Je baissais les yeux. J'avais honte. Je ne savais comment me comporter. Le père dit :
Il faut aller chercher la police. Il n'est pas normal.
Mais je n'ai rien fait. Et tout à coup, je vis que cet homme, au visage si dur, si laid, ressemblait à Didier, et que Didier ressemblait à lui. Cette découverte me fit un mal terrible. C'était vraiment la fin d'un rêve. Quand la réalité se cogne à vous, cela fait très mal. Mal.
Un peu d'espoir. Et dans mes yeux, sous le ciel noir, la joie se lève. Un peu d'espoir. Un peu d'amour pour vous, un simple adieu, un au revoir, et puis bonsoir.
Nous avons attendu un moment, comme ça, sans rien nous dire.
Et nous dire quoi ? J'étais vidé.
J'ai eu envie de pisser. Oui, une envie idiote qui n'a rien à voir avec un rêve. J'ai besoin d'aller au WC. Le proviseur s'est levé. Moi aussi. Et il m'a mené. De toute façon, tout était fini. Et nous sommes revenus nous asseoir. La porte s'est ouverte sur trois hommes. trois agents en uniforme. Les deux hommes se sont levés. Moi aussi. Le père dit, sûr de lui, de ce qu'il était, de tout, je le détestais. Ce jeune homme n'a pas l'air bien normal. Il semble avoir quitté sa famille sans se prévenir. Un agent s'est approché. M'a touché pour voir si j'avais rien de suspect dans mes poches. Un autre m'a mis des menottes au poignet. J'ai protesté. Ça ne vaut pas la peine. Je vous serais suivi comme ça. Et on m'a poussé dehors. Un policier a demandé au père s'il voulait les accompagner. Oui, bien sûr, le fumier. On est arrivé au poste de police. À la fouille, on a pris le portefeuille. Ils ont vu les articles. Le père a dit, « Voyez, c'est pas le premier qui vient jusqu'à nous. Il n'est pas normal. » Le commissaire l'a enfermé dans une cellule. J'ai essayé de dormir sur un banc trop dur. Je voulais dormir, dormir pour oublier, oublier la réalité, ne plus rien voir. Et lorsque la réalité vous tient, elle ne vous lâche plus. Dans le bureau du juge pour un interrogatoire. J'ai dit simplement que je voulais voir un mamie et c'était tout.
Vous voulez vraiment ne rien me dire? Vos parents vont venir vous chercher. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, vous répondiez à nos questions. Un mineur qui fugue, c'est la prison, la maison de redressement. Heureusement que vos parents sont des gens respectables.
Le juge a fait sortir et asseoir sur un banc.
Je crains plus mes parents que ma la police. Avec eux, il faudra se justifier et dire quoi? Qui peut comprendre un rêve d'amour? J'aimerais qu'on me laisse en paix, que ma famille ne vienne pas et même qu'on me mette en maison de redressement. Là-bas au moins, on me laissera en paix
personne ne me posera de questions. L'attente est interminable. Le plus souvent, on le laisse seul. Personne ne semble s'occuper de lui. Le couloir qui mène à la sortie est souvent vide. Il se dit qu'il pourrait s'enfuir, mais il ne le fait pas. Enfin, je vois arriver mon père seul. Je me dis, tant mieux, il n'y a pas la mer. Le père s'approche de moi. Je me levais. Bonjour, père.
Bonjour.
Je voyais que mon père était aussi gêné que moi.
Alors, que t'arrive-t-il?
Je ne savais quoi dire. Le commissaire arriva. Il demanda à mon père.
Vous le prenez? Oui. Bien.
Et mon père et moi, gênés l'un et l'autre, sommes partis. Nous avons pris le train. Nous ne nous ont regardé ni parlé. Je voulais que ce trajet durât toujours. Je ne voulais pas rentrer à Lyon. Je n'y croyais pas. Oui, toujours, toujours, toujours. Que ce voyage ne termine jamais.
Je tiens vraiment bien le faire.
Je m'arrivais à Lyon, je sortais du train, effondré, perdu, j'avais tout perdu, mon amour, mes rêves, tout, tout. Mon père me menace chez moi. Je n'osais pas le regarder, ni lui d'ailleurs. J'avais la tête en feu. Je ne sais pourquoi. Je boitais de la jambe droite. Enfin, ça m'arrivait à la maison. Mon père me mena à ma mère au salon. Elle était debout, digne, sûre d'elle. D'ailleurs, rien à se reprocher. Elle se dit :
« Oh, te voilà enfin. On peut dire que tu nous as donné du souci. »
Elle demanda à mon père.
« T'as-t-il dit pourquoi il était parti ?»«
Non. »«
Il ne nous aime pas. C'est tout. »
Je voulais protester et dire que c'était faux. Mais à quoi bon ? Je suis devenu une personne à surveiller, un paria, un étranger. Je m'en fichais. Moi, je voulais mourir. Oui, mourir. Je n'avais plus d'avenir, plus rien. Les papiers de mon portefeuille, je les ai jetés, puisque c'était fini. Oui, bien fini. Mais un grand vide était en moi, un vide terrible. Je pleurais toutes les nuits. Je ne savais même plus pourquoi. J'avais oublié. Effacer mon rêve. La réalité était trop forte, trop forte. Après mon retour, je voulais oublier et surtout ne penser à rien. Je passais une nuit noire et ne savais pas ce que serait mon avenir. Le lendemain matin, je me réveillais dans un décor qui n'était et ne serait plus le mien.
C'était chez mes parents. Ils étaient hostiles. Je n'osais plus les regarder, leur parler. Et eux, mes pieds, me regardaient comme si j'étais un inconnu à surveiller, un coupable. J'étais gêné devant eux. Je n'osais les regarder et leur parler. Cela donnait une atmosphère irrespirable. L'on n'osait pas trop me faire des reproches en face, mais je les entendais parler de moi. J'avais l'impression qu'ils parlaient d'une autre personne. Je n'avais plus de nom. J'étais il, l'intrus, l'inconnu qui a fait une faute et dont il faut se méfier. Moi, dès mon arrivée, j'aurais aimé leur dire que si j'étais parti, ce n'était pas parce que je ne les aimais pas, mais pour autre chose qui n'avait rien à voir avec eux. J'aurais aimé leur demander pardon, mais dès mon retour à la maison, leur comportement me paralysait. Je me sentais coupable et honteux et incapable de leur parler, car j'avais l'impression que si je parlais, j'allais aggraver mon cas. L'on me reprocherait par derrière, au lieu de me le dire franchement, de ne pas m'excuser pour ce que j'avais fait. S'ils me l'avaient dit franchement, je l'aurais expliqué comme si j'avais pu. Mais j'aurais essayé et cela aurait adouci l'ambiance. Mais là, dit en cachette, j'avais l'impression que si je leur parlais, cela voulait dire que j'écoutais aux portes, ce qui était faux. Ils parlaient suffisamment fort, donc j'aggraverais mon cas. Alors je restais muet et mon mutisme aggravait aussi mon cas. Donc, le lendemain de mon retour, après une nuit d'angoisse noire et voulant tout oublier, refusant ce monde hostile. Après cette histoire, j'aurais aimé qu'on me mette dans une cellule, isolée du monde, des gens, mais je me trouvais chez mes parents. Je sortais de ma chambre. La gorge serrée et envie de vomir. Les jambes tremblantes. J'hésitais à aller au salon prendre mon petit déjeuner. J'avais peur de les retrouver. J'allais ouvrir la porte du salon. Ils étaient à table. Je ne savais comment me comporter. La gorge serrée m'empêchait de dire un mot. Ils me regardaient. Je suis sûr que j'avais le visage suffisamment ému et démuni pour qu'ils comprennent. Ils s'étaient levés, accourus vers moi pour m'accueillir. J'aurais pu m'épancher, mais à rien. Leur visage était sec. Je ne pouvais ni parler, ni les embrasser. Pourtant, je savais qu'il fallait que je le fasse, car j'aggravais mon cas, mais j'en étais incapable. Leur visage me paralysait. Je me mis à table sans rien dire. Ma mère poussa un soupir et regarda mon père. Je ne savais où poser mes yeux.
Elle me dit, « Dépêche-toi de manger. Ce matin, tu iras au coiffeur. »
Je ne dis rien et, tremblant, me servis du café et un croissant. Je n'avais pas faim, la gorge serrée, mais je mangeais machinalement.
Elle me dit, « Comment aurais-tu fait à Paris pour te nourrir et pour dormir? Tu aurais été un clochard. Tu dois être heureux d'être ici, à manger tranquillement. »
Je n'osais plus manger. On me le reprochait. D'ailleurs, je n'avais plus faim. Je laissais mon croissant à moitié mangé et le café.
Elle me dit, « Ne fais pas ta tête de cochon, mange. Tu dois avoir faim après cette aventure. »
Je terminai mon croissant avec toute la peine du monde et me levai de table. Je sortais du salon pour monter à ma chambre. J'allais m'allonger sur mon lit, la tête en feu. Cette chambre n'était plus la mienne. Je me sentais étranger. Je ne revenais pas de 2 jours de voyage, mais de plusieurs mois. Plusieurs mois, plusieurs années où j'avais vécu en dehors de tout, du monde, avec Didier. Maintenant, c'était fini, et je savais que je ne pourrais plus être comme avant, vivre comme avant. J'étais revenu à la réalité, mais la réalité n'avait plus le même goût pour moi. Tout me paraissait fade. Rien n'était pour moi. Rien ne pourrait plus me donner de plaisir, ni livre, ni musique, ni rien. J'avais l'impression d'être dans un grand trou noir et je ne souhaitais qu'une chose, rester allongé seul, à ne rien faire, ni penser. Demi-heure plus tard, je sortais de ma chambre pour aller au coiffeur. Juste avant que j'ouvre la porte d'entrée, j'entends derrière moi ma mère.
« Où vas-tu ? » ?»« Je vais au coiffeur. » »« Fais attention, la police nous a dit que nous étions responsables de toi. Tu ne dois plus partir comme tu l'as fait. Sinon, tu seras à la maison de redressement. Tu es mineur. »
J'ouvris la porte pour sortir.
Thank you.
Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.